sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui n'est plus à la mode aujourd'hui, mais que le réchauffement climatique et ses manifestations nous amènent à revisiter. Quel est ce mot mystère, Max ?
Il s'agit de la décroissance.
Comment peut-on la définir ?
Ben, il s'agit de découpler l'amélioration de la situation des particuliers et l'élévation de la production matérielle, le PIB en particulier. Il s'agit de faire décroître le bien-avoir statistique pour améliorer le bien-être vécu. C'est un slogan politique possédant des implications théoriques. Elle marque l'abandon de la croissance pour la croissance. L'objectif de la croissance ne serait que la recherche du profit par les détenteurs du capital, dont les conséquences sont désastreuses pour l'environnement.
D'où vient cette analyse ?
Bien, l'intuition des limites de la croissance économique remonte à Malthus, mais elle est actualisée par les analyses de Nicolas Georgescu Regan, 1906-1994. Il rappelle que le processus économique matériel ne peut se répéter et s'accroître indéfiniment dans un monde où l'énergie, les flux solaires et les énergies qui en sont dérivées et les matières premières sont limitées. La production économique, telle qu'elle est conçue par la plupart des théoriciens néoclassiques, ne semble confrontée à aucune limite écologique. Il s'ensuit un gaspillage inconscient des ressources rares disponibles et d'une sous-utilisation du flux d'énergie solaire. Le recyclage, la découverte de procédés de production sobres en énergie, ralentiront la pénurie, mais ne permettront pas de faire face aux millénaires à venir. Ils démontrent l'impossibilité d'une croissance infinie dans un monde fini. Il faut penser l'économie au sein de la biosphère, il s'agit de la bioéconomie.
Une fois ce constat admis, comment mettre en œuvre une politique visant la décroissance ?
Par exemple, il s'agit de supprimer les externalités négatives de la croissance, qui vont des accidents de la route, aux dépenses des médicaments contre le stress, la remise en question du volume considérable des déplacements des hommes et des marchandises. Il faut promouvoir une relocalisation des activités économiques. Il faudrait limiter les publicités, l'obsolescence accélérée des produits et des appareils jetables. Cela sous-entend une rupture avec la société de marché, son consumérisme et son productivisme.
Manifestement, le monde ne suit pas ce chemin.
En effet, ce n'est pas ce que nous promet aucun gouvernement dans le monde. Le pouvoir d'achat reste au cœur des préoccupations de nombreux Français. Le taux de pauvreté, qui était tombé à 14,2% en 2015, est remonté à 15,4% en 2025. Mais parallèlement, le patrimoine moyen des 10% des ménages les plus fortunés a augmenté de 52,7% entre 2010 et 2023. Passant de 16 633 400 à 2 540 190 euros, alors que le patrimoine moyen des 50% des Français les moins fortunés n'a augmenté que de 45%, passant de 54 880 à 79 760 euros. La croissance contribue à augmenter les inégalités, c'est un facteur de frustration et de mal-être. Il faut donc éclairer le débat public pour mettre au point des indicateurs qui prennent en compte toutes ces données. Il s'agit de refléter au mieux les impacts de la croissance, tant d'un point de vue social que d'un point de vue écologique. Nous y reviendrons dans une prochaine rubrique.
Entendu Max, on verra ça la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt. Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.
Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil, à Créteil.